Bienvenue à la librairie Mosaïque pour cette rencontre autour de la sortie du bouquin donc de photographie indocile de photos de François Poulain et de Marsu qui est également ici, qui a préfacé le livre.
C'est son métier, préfacer.
C'est un préfaceur de livre. Et Paria, des archives de la zone mondiale, qui a édité ce livre. Et bien, bienvenue à vous.
Ben, merci.
On a du coup un très beau livre qui va regrouper du coup 300 photos à peu près de la scène rock.
333 exactement.
333, soyons précis, de la scène rock française. Plutôt à Paris, hein, en tout cas sur les clichés qui ont été pris.
Certains.
Il y a un peu Mont-de-Marsan, il y a un peu.
Certains, on va dire.
Il y a banlieue surtout.
Il y a banlieue Montreuil.
Banlieue parisienne, mais un petit peu partout autour de la France.
Sûrement.
Et il n'y a pas que des Français, on va dire qu'il y a au moins 10 ou 20% de groupes étrangers aussi dedans.
C'est vraiment le temps donc des concerts sans téléphone portable dans le public.
Ouais. C'était le temps où tout le monde fumait dans les salles de concert aussi. Donc les salles étaient très, très enfumées.
Et toi, François, du coup, tu fais des photos depuis cette époque, tout en argentique, avec cette particularité qui est ce bord autour de ces photos, sa signature que tu obtiens en limant.
Voilà. Sur un agrandisseur, on met un négatif. Pour ceux qui ne connaissent pas la photo argentique, le négatif, c'est une bande. Et on met un négatif dans un agrandisseur et on le passe sur un passe-vue. Et le passe-vue de mon agrandisseur ne permettait pas d'avoir la totalité de l'image. Et donc, je l'ai limé. Donc, la forme qu'il a, c'est la lime qui l'a déterminée. Et j'ai limé une fois pour toutes et ça m'est resté.
On retrouve les mêmes lignes sur toutes les
fichiers. Hein. Sur tous les tirages que je faisais à la main, puisque je faisais tout à la main, c'était exactement le même tirage. Alors, pourquoi montrer les bords noirs? C'est pour montrer la photo. Elle a été cadrée. Avant de faire la photo.
Oui, c'est ce que tu précises dans la préface aussi.
Tout à fait.
C'est qu'il n'y a pas de retouche, aucune retouche sur ces photos.
Non, il n'y a pas de recadrage.
De recadrage, pardon.
Voilà, il n'y a pas de recadrage.
Mais tu fais des retouches?
Alors,
des bouteilles
de toute façon, on fait toujours des retouches. Quand on fait des tirages à la main sous un agrandisseur, on a tout un tas de petits bric-à-brac, même avec ses mains, on sculpte la lumière. J'ai bien aimé ce que l'a dit ce matin Yves à la radio. On sculpte la lumière avec les mains. Maintenant, avec l'ordinateur, s'il y a des petites pétouilles, des petits endroits, on retouche là les photos. Donc là, je ne peux pas dire qu'elles ne sont pas retouchées, mais en tout cas, elles ne sont pas recadrées. C'est la marque de fabrique et tu peux te rendre compte que dans la majorité des livres photos, les photographes mettent toujours un bord noir pour montrer qu'ils ont cadré avant. Mmh. C'est peut-être un petit peu intellectualiser le truc, mais pour moi, le cadrage est non négociable. Maintenant, en numérique, on fait une photo comme ça, on recadre comme ça, on fait ce qu'on veut. Bah, à l'époque, c'était pas... Moi qui fais maintenant de la photo numérique, c'est pas du tout le même métier.
Oui, oui. Voilà.
Je croise des petits jeunes qui me disent « Oh, aujourd'hui, j'ai fait un concert, j'ai fait 1500 photos. »
Oui, c'est ça.
1500 photos. J'ai dit « Mais tu vas passer un temps fou dans l'ordinateur. Ouais, j'adore ça et tout. Mmh. » Mais moi, ce que j'adorais, c'était me retrouver dans le noir avec mes bacs photos et faire mes petites photos. C'était un plaisir qui a disparu parce que j'ai arrêté. C'est pour ça que j'ai mis 2007. J'ai arrêté la photo argentique en 2007. Mais j'ai mis 87 parce que c'est la première date de ma première photo. Mais la majorité des photos ont été faites dans les années 90. Voilà.
Concernant la genèse du bouquin, on va pouvoir en parler. C'est aussi un projet évidemment élaboré avec Paria, du coup des archives de la zone mondiale, qui pallie un peu à la disparition de ce livre Scène de rock française.
Scène de rock en France.
En France, pardon, ouais. Qui est paru dans les années 90.
C'est pas exactement la même chose quand même, parce que dans Scène de rock en France, il y avait quand même une présentation par groupe. Alors que là, il n'y en a pas. On a directement accès aux photos et à la matière de la photographie elle-même. À part les préfaces, c'est de Paria et la mienne. Enfin, toi, c'est un avant-propos. Mm. Mais bon, on peut dire que c'est à peu près une préface. Il n'y a rien d'écrit dans le groupe. Il y a juste le listing des groupes. Et après ça, aux gens peut-être qui ne connaissent pas, de faire la démarche de voir ce qu'étaient les groupes et ce qu'ils ont produit comme musique.
Voilà. Ouais, il y a quelques portraits quand même qui sont à noter.
Sur les personnages uniquement.
Sur les personnages uniquement.
Pour faire la différence, Scène de rock en France en 1993, c'était un panorama qui était le plus exhaustif possible, où on présentait des groupes, et donc il n'y avait plus qu'une fiche, il y avait un texte qui accompagnait chaque groupe. Mmh. Donc pendant longtemps, ça a été pas une encyclopédie. Mais aujourd'hui,
c'était surtout ce bouquin qui était sorti à l'époque, ouais. Sur cette scène. C'était le seul référent qu'on pouvait avoir pour savoir qui étaient les Roadrunners ou. un yoka ou des trucs comme ça. Ouais. C'était, il n'y avait rien, à part les fanzines, et qui étaient rarement aussi exhaustifs. Parce que
combien il y avait de groupes au même endroit, surtout.
Il y avait plus de. Il y avait 150 groupes.
Voilà, ce qui est quand même gigantesque, quoi.
Voilà. Et donc, quand on avait fait ce livre, Scène de Rock en France, en 1993, avec mon camarade Maxwell, on s'était un peu dévoué à le faire parce qu'il n'arrivait pas. Toute cette scène musicale était boycottée, blacklistée par la presse mainstream, par les télévisions, les radios. On n'entendait parler que dans les fanzines et dans les radios libres. Donc, dans l'édition, ça n'existait pas. Donc, on s'y attelait. Donc, on a fait ce bouquin. Et ce bouquin était sorti en 93 et il a été très vite épuisé. Donc, ça a été un succès de librairie. Mais manque de peau pour moi, même si on le présente aujourd'hui comme un livre culte, les photos étaient très peu mises en valeur puisque la pression était abominable.
Mmh. Oui, et encore, il faut relativiser les choses puisque...
Non, abominable.
Non, attends, t'es abominable, mais quand tu vois les bouquins par exemple de Canon Blanc, au niveau de...
Abominable.
C'est encore le degré après, il y a un mot...
vraiment abominable.
Abominablissime.
Donc, et en plus, mon collègue Maxwell étant un garçon... dithyrambique, au début c'était de simples légendes et les légendes sont devenues énormes et mes photos sont devenues de plus en plus petites. Donc des fois j'avais des photos qui étaient grandes comme 100 vignettes et donc là je me suis rattrapé là, enfin cette fois c'est en grand, c'est bien imprimé, voilà, ça a de la gueule, voilà. Et donc ça, celui-ci, ce ne sont que des photos et c'est pas du tout un panorama exhaustif de la scène de l'époque. On va dire, c'est un kiff de photographe, quoi. En l'occurrence, c'est mes meilleures photos. Moi, j'ai des groupes que j'adore qui ne sont pas dans ce bouquin parce que je n'avais pas de bonnes photos. Mmh. Et a fortiori, il y a des groupes qui sont dans ce livre que j'aime moyennement, mais dont les photos sont exceptionnelles, donc je les ai mis dedans. Je vais pas dire qui.
Il faut quand même bien entrer en ligne de compte qu'il n'y a pas que de la scène française. Tu disais pour tout à l'heure qu'il y avait genre 10% de groupes étrangers.
On trouve par exemple le percussionniste de Bob Marley de Wailers, qui est, alors que dans ce livre on trouve d'autres gens comme les Shérifs, les Béronnés Noirs, les Non-Tropos, les Cadavres.
Oui, c'est donc, ça, c'est quand même toute une époque hein, qui...
Voilà, mais ce n'est pas que orienté punk rock, c'est vraiment tout style de musique confondu. C'est, comme disait Bob Marley, c'est la punky reggae party, c'est très très large.
Voilà. Ouais, on est content de retrouver Assassin, notamment.
Voilà, on trouve même des groupes de
Massilia,
rap, Massilia, voilà.
Zedda.
Et moi, à l'époque...
Que des jeunes.
À l'époque, je...
À l'époque, ouais.
À l'époque.
Moi, je fais ma première photo en 1987 dans une salle qui s'appelait Capsule Rock à Champs-sur-Marne. C'est une salle qui a duré pendant plus de 10 ans. Et là-bas, je rencontre le manager de la Mano Negra qui s'appelait Philippe Renaud, qui voit une photo sur le mur et qui me dit « Oh, j'aimerais bien que tu viennes faire des photos dans ma salle. » Et du coup, lui, il avait cette salle qui s'appelait le Fahrenheit à l'autre bout de Paris. Et pendant 10 ans, j'ai fait des photos sur ces deux salles. Donc, effectivement, elles sont en surnombre dans ce bouquin. Mais depuis, après, j'ai déménagé dans le Vaucluse.
Comme je l'explique dans la préface.
Et j'ai déménagé dans le Vaucluse et j'ai fait beaucoup de photos dans le Vaucluse, mais j'ai fait des photos aussi partout en France, que ce soit à Lyon, Clermont-Ferrand, Nantes, enfin la France entière.
Oui, d'ailleurs, c'est notable, aussi bien dans Scène de Rock en France que dans ce bouquin, les groupes de province qui généralement sont zappés par la plupart des bouquins qui ont pu sortir sur la scène française, sont présents en quantité. Tout à l'heure, je feuilletais quelques-uns des bouquins que tu présentes, par exemple, et ce qui est assez amusant, je ne sais pas comment il s'appelle, le bouquin jaune là.
Non, sur le.
Rock la France.
Ouais. En feuilletant vite fait, parce que je n'avais pas encore vu ce bouquin, je vois déjà les trucs que tu. T'as la répétition d'erreurs journalistiques, comme les mecs en réalité connaissent pas forcément la scène, mais par contre s'inspirent des articles des autres ou ceux qu'ils ont produits, où en fait du coup t'as
les mêmes erreurs sont
reprises par les gens qui reprennent d'autres gens, qui reprennent d'autres gens, qui ont fait l'erreur de base. Et là j'en ai vu deux ou trois directs.
En ouvrant le bouquin une fois.
Ouais.
Ok.
Enfin, une fois. Plusieurs pages.
Oui, c'est vrai que le rock français, il y a beaucoup d'erreurs. Je sais que notamment Mishka Assayas avait sorti un bouquin sur l'encyclopédie du rock, donc il avait dispatché et tout, et ils avaient fait un mélange. Il y avait une chanson de La Souris Déglinguée qui parle de parking, et ils avaient mélangé ça avec Le Parking des Anges de Marc Lavoine en faisant un truc complètement débile.
C'est pas la même chanson.
Et c'était écrit noir sur blanc avec Mishka Lacayas qui doit nous expliquer la vie de la musique.
Voilà. Comme on parlait tout à l'heure de Ping et du petit dictionnaire du punk en France qu'ils ont sorti. Et t'as des trucs comme le chanteur des Dogs par exemple qui s'appelle
Dominique Laboubé.
Non, mais ça, c'est son nom. Mais en fait, là, ils lui ont donné un autre prénom.
Nestor.
Genre Marc Laboubé, tu vois, le truc, genre le style quand même, bavure de première bourre, quoi.
Plein d'entrées fausses dans ce film. Ouais.
Donc, pour avoir les bonnes références...
Voilà, les photos. Voilà.
Alors, les bonnes photos.
Il faut regarder des photos.
Scène de rock en France est sortie en 93 et on a eu, l'éditeur a eu la mauvaise idée, deux mauvaises idées. La première, de faire imprimer en Italie. Et les films ont été perdus en Italie. Mmh. Donc on ne peut pas le réimprimer tel quel. Et c'est d'autant dommage qu'il a été épuisé en un an. On avait 4000 exemplaires, ça a été épuisé. Donc généralement, un éditeur, quand il épuise un livre, il doit le rééditer. Et ben non, ils ne l'ont pas fait. Donc depuis, ce bouquin, même si je dis qu'il est abominable, il est devenu culte parce qu'on ne le retrouve plus. Il est, des fois, on le trouve à 250€ sur Internet. Mmh. Moi, j'en rachète de temps en temps, mais je ne mets pas plus de 45€ pour le racheter, quoi. Mmh.
Bizarre. Alors, et Paria, pour faire le lien de tout ça, toi, tu as même été participer à la sélection des photos.
Techniquement, on a revu beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos sur ton ordinateur.
J'ai passé un an à regarder tous mes négatifs un par un. J'en ai des classeurs et des classeurs entiers. Toi, toutes les semaines sur Facebook, je poste des photos. Je poste 3 photos de Capsule Rock. Avec tout ce que j'ai scanné pendant le confinement, j'en ai encore pour 6 ans à poster toutes les semaines. Donc j'en ai... je parle juste des photos scannées. Je ne parle pas des photos non scannées. Mais en fait, je pourrais passer ma vie, d'ailleurs je passe ma vie à fouiller là-dedans, à chercher et à m'énerver. Et d'ailleurs, il y a des négatifs qui ont disparu, que je ne retrouve pas. Ouais. Des fois, c'est les maisons de disques qui me les ont gardés. Ouais. J'ai notamment une photo de Nirvana, j'avais fait la première couve du Rock Sand avec Nirvana dessus, parce que Nirvana avait joué au Fahrenheit, salle où j'étais le photographe, ouais. Mais je n'y avais pas été, parce que c'est un groupe américain qui débutait, là, j'avais rien à foutre, je ne l'avais pas vu. Et donc,
mais depuis... moi, j'étais au bar.
J'étais au bar, voilà, tu vois. Moi, j'étais chez moi, j'habitais pourtant à 3 km.
C'est possible de rater l'histoire parfois.
Et donc,
ils étaient en première partie.
C'est des diapos. Roxanne, ils m'ont volé la diapositive. J'ai pas pu la récupérer. Sinon, Nirvana serait dans ce bouquin, mais ils y sont pas.
Mmh. Et alors, sur le choix des photos, quand même, je reviens à ta note que tu mets en préface. Tu as participé, pareil,
avec Rochefoucauld. Oui. Non, mais on s'est retrouvé à 3 paires d'yeux à regarder des soirées entières, effectivement. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives.
Pourquoi ? Pour aider François justement sur des hésitations ou...
On en avait 500, il fallait
le
faire.
Le principe, c'était de dire qu'à chaque fois que François disait que la photo était merdique, de dire non, elle est bien.
Ouais,
et réciproquement. Et du coup.
Ouais, c'est vrai que je suis peut-être un peu sévère. Donc c'est pour ça que je
On en a sauvé beaucoup avec Roustine quand même. Hein. On est assez fiers de la sélection finale.
On était sur un autre critère que François. François, avec son critère de qualitatif. Quelque chose de technique, machin, il fallait vraiment que ça englobe tout. Et avec Paria, on avait ce côté plus sur l'émotion que dégageait l'image, etc. Donc ça ouvrait plus de choses.
Mais il est vrai qu'en cherchant pendant un an entièrement, c'était long et fastidieux. Et d'ailleurs, j'explique pourquoi, quand est-ce que j'ai commencé à faire ce boulot. J'ai commencé ce boulot quand mes enfants sont partis de la maison et que j'étais plus père au foyer. Je faisais plus le taxi, j'étais plus dérangé. Et là, je passais des journées entières. Je mettais des négatifs partout, au sol, partout. J'ai pas de chat, pas de chien, je pouvais me permettre. Il y en avait partout. Il fallait du temps long. Et c'était long et fastidieux. Et encore une fois, si je recommençais, j'en retrouverais d'autres. J'en suis persuadé. D'ailleurs, j'ai découvert des photos que je n'avais jamais vues. Parce qu'à une époque, je faisais tellement de photos, je les mettais dans un coin, je regardais la planche contact, oh celle-ci est bien, je faisais un tirage, et une fois que j'avais fait un tirage, je regardais pas les autres, et c'est comme ça que j'ai découvert des photos qui sont dans ce bouquin en pleine page que j'avais complètement oublié.
Il y a un dossier de retour.
Ouais, bah, il y a un dossier qui s'appelle BOF, c'est toutes celles qui ont été recalées. Et je connais certains qu'avec ce dossier BOF, ils feraient 4-5 bouquins, quoi.
C'est encore ton boulot aujourd'hui ?
Bah, c'est toujours mon boulot. Moi, je suis sorti photographe indépendant. Mon seul boulot que j'ai fait après, c'était père au foyer. Je suis resté photographe, ouais. Mais maintenant, je fais toujours de la photo en numérique. Ouais. Mais c'est moins glamour. Je prenais énormément de plaisir dans mon labo à faire de l'argentique. Et puis, c'était l'époque où... il fallait, avant d'appuyer, on réfléchissait. Parce que tout coûtait cher. Aujourd'hui, on peut faire des milliers de photos, ça coûte pas un centime. À l'époque, le prix de la pellicule, 8€ la pellicule, 15€ le développement dans un labo pro, ensuite le papier, le révélateur, le fixateur, ça coûtait une fortune.
C'était en francs.
Oui, c'était en francs. Oui, non, mais j'ai passé en euros pour que les gens comprennent bien. Effectivement, je payais en francs à l'époque. Et donc, ça coûtait cher. Donc, avant d'appuyer, il fallait vraiment se dire, bon, là, c'est peut-être le moment d'y aller. On n'était pas dans la gabegie. On était dans la... réflexion dans la sobriété heureuse, comme dirait l'autre.
Quand vous êtes rencontrés
C'est moi qui ai pris contact avec François pour rééditer Scène de Rock en France. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui vibrait chez lui, mais c'était pas le bon moment.
C'est normal, c'est un jeune.
Bah ouais, mais je suis une petite génération qui vous pousse dehors.
Bah tu le dis, tu me connaissais par l'intermédiaire du bouquin Scène de Rock en France, et c'est ce bouquin-là
qui a été la porte d'entrée et les réseaux sociaux pour rentrer en contact, faciliter des concertantes. Mmh. T'envoies un message, la personne elle répond. Et puis François et Christine, vous êtes venus nous rendre visite à Die, ouais, une première fois il y a 3 ans, je pense, à peu près, pour voir qui c'était derrière le message et voir un petit peu qu'est-ce qu'on faisait.
Comme j'étais échaudé par Scène de Rock en France en 93 avec cette mauvaise édition, j'avais ça dans la tête depuis plus de 20 ans. Je me disais, il faut que je le fasse, je vais le faire. Mais bon, Scène de Rock en France avait déjà été harassant. Celui-ci, c'était pire, quoi. C'est très fatigant. Ah ouais. C'est-à-dire, si demain on me dit, tiens, tu fais un docile 2, je dis, non.
Dans 20 ans.
Il faut attendre un peu. Ouais. Beau.
C'est trop difficile de choisir, quoi.
Non, c'est pas ça, mais c'est trop de pression, c'est trop dur. On a fait que ça. C'est-à-dire, pendant un an, on a pu regarder un film, on a pu être au cinéma, j'ai pu jouer de guitare, j'ai plus rien fait. Je n'avais que ça, l'obsession du soir au matin, quoi. Mmh. Et en fait, choisir les photos.
C'est quand même un petit peu monomaniaque.
Bah, si tu le dis. Et dans la préface, il dit que je suis un moine Shaolin de l'Argentique. Et monomaniaque maintenant.
J'ai oublié de mettre ce mot, mais je sais que ça passerait mal.
Et sculpteur de lumière a dit Yves ce matin, on me prête beaucoup de qualité à ce niveau-là. Donc c'était difficile à choisir, c'était long et fastidieux. Et si on devait. C'est un peu comme les enfants. Moi j'ai 2 enfants, j'ai mis 4 ans entre chaque enfant pour s'en remettre. Ouais, on fait pas, je suis pas du genre à enchaîner les trucs. Donc à docile 2, s'il doit y avoir, c'est pas avant 4-5 ans, quoi.
Non, mais on va rester concentré déjà sur celui-là qui sort le 24 avril, mais qu'on a ici en avant-première, du coup. C'est vraiment toute une époque, quoi. Il y a des groupes qui n'existent plus, il y en a qui continuent encore.
Tout à fait.
On retrouve des personnages qui ont disparu, certains récemment, je pense à Carton.
Alors malheureusement, j'arrive un peu tard, parce qu'effectivement, si j'avais dû préciser à chaque fois tel musicien est mort, tel musicien est décédé, ça aurait été une nécro infernale. Donc j'ai préféré ne pas en parler. Voilà.
Et puis en plus, entre le moment où tu fais le bouquin et puis le moment où il sort, tu en as 30 de plus qui sont partis. Donc...
Dans les 3 dernières années, il y en a d'autres qui sont sortis.
C'est un bouquin qui va parler du coup à votre génération, à la mienne aussi, parce que j'ai connu certains de ces groupes aussi sur scène, qui fait office du coup de témoignage pour la scène d'aujourd'hui, quoi. Et ça fait vraiment un pont, un lien. Et puis moi j'aime bien parce que aussi on retrouve du coup beaucoup de photos du coup sur scène, et on aime retrouver ce blanc là, comme tu dis.
Et puis surtout à l'époque, là on a des projecteurs à lampe.
Oui, c'est ça.
Donc on met des gélatines pour avoir de la couleur. Aujourd'hui, quand tu vas dans une SMAC, ça dégueule de lumière, ça tourne dans tous les sens, on se croirait à la fête foraine. On n'éclaire pas le groupe, parce qu'avant on éclairait le groupe, maintenant on éclaire le public, c'est complètement différent. Et maintenant tu fais des photos en numérique, t'essayes de faire du noir et blanc, parce qu'en couleur, tu sors toujours dans des tons roses, fluo, dégueulasses, t'essayes de les passer en noir et blanc, puis t'as un faux noir et blanc, on sent bien que c'est pas du noir et blanc, c'est complètement dégueulasse. Je pense qu'aujourd'hui, si j'étais photographe, je me destinerais pas à faire de la photo de scène. Donc je suis bien tombé à la bonne époque, et heureusement pour moi, parce que j'ai pu faire des belles images avec cette lumière, et puis surtout, je le dis aussi, avec cette pellicule de chez Kodak. J'ai absolument pas envie de leur faire de la pub, mais c'est vrai qu'ils m'ont sauvé la vie. Ça s'appelle la T-Max 3002, 3200 ASA. Ça dit rien aux gens qui font du numérique aujourd'hui, mais c'est une pellicule ultra sensible. Et quand cette pellicule est arrivée, moi, j'étais presque prêt à arrêter la photo de concert, parce que je prenais des pellicules 400 ASA que je poussais à 800 ou à 1600, et il avait des résultats dégueulasses. C'était ultra, ultra noir, ultra charbon. Alors, tandis que là, par contre, il fallait bien la faire développer. Je la faisais développer par un labo pro et c'était fantastique. Si la même pellicule, je la faisais développer un labo comme la Fnac, j'avais des négatifs tout dégueulasses. Il y avait plein de gens qui me disaient, mais moi, je fais du noir et blanc, j'arrive pas à avoir les photos comme tu fais. Tu fais développer à la Fnac dans un petit labo, donc il fallait faire développer dans un gros labo, ça coûtait 15 euros le développement. Donc je récupère les négatifs. Et ensuite, bon, bah, moi j'avais une formation grâce à l'école des Gobelins. Je tirais mes propres tirages. Et ensuite, je vendais ces tirages à des maisons de disques. J'en ai vendu certains à Marsu ici, là. Et j'en vendais aussi à des magazines. Ou pour des livres. Pas bien cher. Et donc je faisais tout à la main. C'était vraiment un bonheur. Aujourd'hui, faire des photos numériques, être devant son ordinateur, bon, pour moi c'est beaucoup moins intéressant.
Ouais, y a un truc que j'avais pas pensé tout à l'heure quand on faisait l'émission de radio, tu vois, et qu'il faut quand même remarquer en voyant ces photos, c'est qu'il y a aussi des groupes qui ont de la gueule. Il y a plein de gens qui ont des bonnes tronches, des bons looks, qui ont la bonne attitude. Et c'est pas toujours super flagrant avec certains des groupes de maintenant.
C'était mieux avant.
J'ai dit c'est pas flagrant. Non, c'est un autre truc qui parle à d'autres gens qui n'ont pas la même vision de l'importance du look et de l'attitude, quoi. C'était quand même beaucoup de groupes maintenant, bah, ils arrivent sur scène, soit alors c'est super mise en scène avec de l'ingénierie top niveau, soit alors ils sont habillés genre shoegaze, tu vois, genre les gens qui regardent leur pompe.
Et puis surtout les groupes qui font la projection sur scène. Donc on a besoin d'être dans la pénombre pour avoir un maximum de lumière derrière. Oui. Donc du coup, ça c'est infotographiable, quoi. Déjà, nous à l'époque, il y avait des groupes, par exemple des groupes, pour ne pas le nommer, Noir Désir. Quand tu essayais de photographier Noir Désir, c'était pas possible. Parce qu'en fait, le chanteur avait un frère qui s'appelait Xavier Cantat qui faisait toutes les photos du groupe. Donc quand les photographes qui étaient autorisés à venir faire les photos, ils baissaient toutes les lumières et nous on faisait les photos dans le noir. Donc on n'arrivait pas à faire de photos.
Sans compter la tendance qu'il y a eu après.
Et dès que c'était fini, les photographes partaient parce qu'on avait le droit qu'à trois morceaux. Et dès que les photographes partaient, la lumière revenait et le frère Xavier Cantat faisait des super photos. Donc moi je suis très fier parce que j'en ai une. Mais c'est une bataille de dingue. Parce que je l'ai fait au 300 mm, mais il faut attendre à un moment de dingue, quoi. C'est complètement fou. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les petites salles, comme au Fahrenheit et à Capsule Rock, je pouvais faire des photos pendant tout le morceau. Dans les grandes salles et les festivals, on avait trois morceaux sans flash. C'est-à-dire qu'on a, au bout de trois morceaux, il y a un gros videur qui venait, hop là, suivant, vous dégagez.
Et ça s'est développé, parce que c'est justement ce que j'allais dire. Au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus pro. Avec des. Bon, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de photographes. Il y a certains concerts, les trucs avec les barrières H du festival, t'as 60 photographes, évidemment. Du coup, les photos vont être plus ou moins semblables, puisqu'elles sont au même moment, sur les mêmes morceaux. Et l'avantage avec les petites salles, et d'ailleurs dans le bouquin, c'est assez flagrant, il y a souvent des backgrounds. Alors que la plupart des. Que ce soit les SMAC ou les festivals, maintenant, c'est toujours. T'as le backdrop, c'est la toile de fond du groupe. Mais sinon, c'est sombre partout. Il n'y a pas d'identité. Alors que dans les petites salles, t'as le côté bricolage, t'as les affiches, t'as de la vie.
Et puis en plus, Capsule Rock et Fahrenheit, c'était des salles très bien pour moi parce que la scène était à peu près à 60 cm de hauteur. Donc on était vraiment presque à la hauteur des musiciens. C'était parfait. Ouais. Pour en revenir à Noir Désir, et j'arrête là-dessus, c'était un festival de Nîmes dans les années 98. Et là, eux, ils avaient eu l'idée, on n'avait pas droit aux trois premiers morceaux sans flash. On avait le droit aux 9e, 10e, 11e morceau sans flash. Et en attendant, ils nous piquaient notre matos. Donc, notre matos photo était posé au pied de la. Et nous, on pouvait aller dans le public, écouter le concert. Oh, ils étaient très gentils quand même. Et puis, il fallait arriver au 9e morceau, récupérer son matos. Et moi, je me souviens très bien, on fait les trois morceaux. Donc toujours dans le noir, hein, donc on a réussi à rien sortir. Et on sort et il y a un mec qui avait mal compté. Il arrive, il fait ouais, c'est bon. Et ben non, c'est trop tard, t'as raté le truc, quoi. Des fois, c'était un petit peu dur. Et il y a aussi une photo dans le livre, c'est une photo d'Henry Rollins qui est en gros plan. Il y a deux photos assez fortes. Et il y a au moins 6 ou 7 ou 8 photographes. Et donc, vous voyez, il est dans cette position, il lève la tête, il nous voit tous. Et puis, je sais pas, il a dû se dire, oh, il nous emmerde. Et puis, il a fait ce geste-là. Et ils nous ont virés, et ils nous ont virés au bout de un demi-morceau. Et heureusement, j'avais fait ces deux photos. Ils voulaient pas. Finalement, ils trouvaient qu'on était tous agglutinés sur lui. Bon, bah, d'un autre côté, il vient en devant de scène, il prend cette pose. On n'allait pas photographier le plafond, donc on était tous à le photographier. Il nous a virés de scène, et heureusement, j'ai fait cette photo. Mais des fois, c'était très, très dur. Dans les petites salles, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et franchement, j'essayais de m'appliquer le plus possible. Mais des fois, sur une pellicule de 36 poses, j'avais une bonne photo, et quand j'avais une bonne photo, je m'estimais heureux. Donc je te dis, ça coûte une blinde au final d'arriver.
Et en plus, il y a quand même quelques photos dans le bouquin. Si on les faisait maintenant, même dans un lieu équivalent, etc., il y aurait des gens en train de mordir leur téléphone.
Ah oui, alors ça.
Des rangées de téléphones.
Et donc, ce que je revenir sur la couverture. La couverture, voilà. Moi, ce que je voulais absolument, c'est qu'on voit du public.
C'est important.
C'est qu'on voit du public. Je voulais en fait aussi rendre hommage, certes, au groupe, mais à tout ce public qui faisait l'effort de se déplacer dans les salles de concert. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était très dur de se tenir au courant. Donc il y a des gens qui faisaient des centaines de kilomètres pour aller chercher des concerts à droite à gauche. Et en l'occurrence, ce concert, c'est un concert qui a eu lieu dans le sud de la France, à Pau. Et c'est un concert un petit peu fondateur pour tous les gens du sud, parce que c'était un concert où les Ramones ont joué. Et ça, c'est le chanteur des Shérifs. Et donc je voulais qu'on voit du public. Voilà. Et alors ce qui est rigolo, c'est que ce garçon, on sait qui c'est. Et sur la photo, bah, qui est en entier, il y a un autre, c'est un journaliste d'un petit fanzine qui s'appelait Abus Dangereux. Il y en a deux qui sont devant de scène, qui se reconnaissent et qui savent. Qui sont contents d'être là. Et donc voilà. Ce que je voulais montrer, c'est que le livre, il est comme ça. Alors on se dit, il y a des tas de gens qui nous disent « Oh, mon livre est décollé ». Mais non, il n'est pas décollé. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Ça s'appelle une reliure à la Suisse, qui permet d'ouvrir le livre en entier. Et par exemple, je prends un lit, une page.
Comme sur la présentation.
Comme sur la... Oui, mais je cherche une. Non, parce que j'ai cherché une pleine page. Voilà. Et donc, on peut l'ouvrir à plat. Et donc, on n'a pas la. On n'a pas la pliure qui fait qu'on perdrait 10% de la photo. Donc on a, on va dire, une photo en panoramique. Donc c'est la reliure à la Suisse. Le désavantage, c'est qu'effectivement, ça fait pas joli. Mais il y a des tas de gens qui sont, des tas de gens qui nous disaient, oh, le livre est magnifique, mais c'est dommage, il faut me le rembourser parce que
il est mal collé.
Il y a même des gens qui ont essayé de le recoller, qui ont mis de la colle toute la nuit, mais une fois que c'est collé, du coup, ça peut plus s'ouvrir correctement. Mais de toute façon, ça tient pas parce que
c'est pas de la bonne colle.
Vous avez autant de retours pour un bouquin qui sort dans un mois.
Alors parce qu'il y a une souscription. Il y a une souscription. On avait besoin de 500 souscriptions. Et on a eu 669. Well, il nous fallait 30 000 euros pour payer l'imprimeur et on a eu 29 700, je
exactement.
Crois. À 300 euros près, c'est l'éditeur qui a payé.
Et pour revenir à ces photos, notamment où le gars dit bon, ok, photographe, merci, ciao, j'imagine qu'il y a d'autres groupes avec qui tu avais des liens beaucoup plus forts. Et où tu peux, parce qu'il y a des photos aussi qui sont prises de la scène.
Oui.
Donc j'imagine que c'était plus proche que de certains groupes.
Ben écoute,
est-ce que tu peux justement rappeler tes influences?
Alors il y avait un groupe que j'aimais beaucoup qui s'appelait Dealer, D-I-L-E-U-R-S, et j'avais fait la première pochette de leur album. Et effectivement, ils sont beaucoup on les retrouve beaucoup dans ce bouquin. Et donc le guitariste avait fait ensuite un autre groupe qui s'appelle Infraction, lui aussi a été beaucoup en photo. Je crois que c'est le gars qui est le plus en photo dans ce bouquin. Et d'ailleurs il a souscrit au tout début, et son bouquin s'est perdu à la poste. Il a eu
la poisse,
il l'a reçu qu'il y a 3 semaines, et pourtant c'est le gars qui est le plus dans le bouquin.
Ouais. Bah déjà il l'a reçu, c'est pas mal.
Ouais. Mais c'est vrai que à l'époque je demandais un passe photo auprès des gens. Au début j'étais pas très connu, mais finalement j'avais pas beaucoup de concurrence. On n'était pas énormément à demander un passe photo pour aller voir OTH ou Bataclan, pour avoir les Ludwig à l'Olympia, même si c'était incroyable. Des gros concerts. Oui, ça paraît incroyable, oui. Mais je peux te dire qu'à l'époque les gens se bousculaient pas, parce que finalement tout le monde dit ouais, c'est sympa de faire des photos de concert, mais c'est super dur.
Il n'y a pas que ça. Il y a un truc très simple aussi, qui est que quand tu fais des photos, des photographes professionnels, il faut aller les boucher. À l'époque, en fait, il y avait très peu de gens de la presse qui étaient prêts à acheter des photos. Et il y en avait même pas mal où, à la rigueur, ils envoyaient le photographe maison du canard. Donc, pour un indépendant comme toi, c'était un peu galère d'avoir placé des...
Tout à fait. Alors,
raconte ce que tu as dit.
Manœuvre. Alors, moi, j'avais un book 30-40. À chaque fois, j'allais voir des gens du monde de la musique, dans les labels ou dans les magazines. Les gars ouvraient mon truc, voyaient des photos 30-40, un peu comme celle-ci, de groupes qu'ils ne connaissaient pas. Pour eux, j'étais un extra. extraterrestre. Il disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? À l'époque, c'était, il fallait faire la couleur, c'était la fin des années 80, les années 90.
Surtout que des groupes connus.
Quoi. Des groupes connus, il fallait faire vendre Coco, il faut que ça soit rentable. Moi, c'était absolument pas rentable, c'était du noir et blanc. Je passais presque pour un mec has-been, passéiste, voilà. Et un jour, je vais voir Philippe Manœuvre, qui était rédacteur en chef de Rock'n'Folk, mon book, et il me dit, ah, vous avez du talent, c'est indéniable, mais je ne vais pas vous embaucher parce que à chaque fois que j'embauche un photographe, il s'arrête de travailler. Voilà, et ce petit con...
Documentaire en bois.
Voilà, et voilà, j'aurais pu... Moi, mon rêve, c'était ça, c'était de rentrer travailler pour un canard qu'on m'envoie à droite, à gauche. Je l'ai fait une fois pour un magazine qui s'appelait Rage. J'étais à Rennes pour photographier un petit groupe. Et puis une autre fois, je suis parti, mais pas pour un canard, mais je suis allé, le plus loin que je suis allé, c'est en Irlande. J'ai accompagné la Mano Negra, les French Lovers à Belfast pour un festival où on retrouve quelques photos à l'intérieur. Mais c'est vrai que quand tu faisais ces photos-là, si tu t'attendais à avoir un retour sur investissement, non, c'était mort, quoi. Donc, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se précipitaient pour faire ça. Un, c'était difficile. Tu avais du mal à les vendre. Et puis, moi, je me souviens, moi, je bois pas d'alcool. J'avais beaucoup de collègues qui restaient au bar plutôt que faire des photos. Et moi, je continuais à faire des photos, même dans le noir, si c'était nécessaire. Mais c'est vrai que ça faisait pas rêver les gens. Sur le papier, ça fait rêver. Mais en ce qui concerne les débouchés derrière, pour essayer d'en vivre, voilà.
Tu es resté indépendant toute ta carrière.
Je suis resté indépendant. Je suis resté indépendant toute ma carrière. Et le seul métier que j'ai vraiment eu, c'est d'être père au foyer par la suite. Et j'ai ma petite femme qui est là, ici, qui m'a nourri pendant des années et qui a cru en moi et qui m'a pas lâché. Et c'est d'ailleurs elle qui est la réalisatrice du livre. C'est elle qui a tout fait de A à Z. Donc si ce livre est beau comme un camion, c'est grâce à Croustine.
Ici, comme un bébé.
Voilà. Ça, c'est mon exemplaire personnel. Et donc, je me trimballe avec. Et dès que je croise un musicien ou un personnage qui est dans le bouquin, je le fais signer. Donc, ce bouquin va être collector et j'espère qu'on va le garder.
Tu vas le mettre à 2500 euros.
Que je ne le perdrai pas et qu'on ne me le volera pas. Merci pour l'eau.
Donner à BNF bientôt.
Et pour ma mort, je céderai à la BNF, évidemment. Moi, j'aurais voulu mettre une fille en couverture. Mais comme je voulais rendre hommage au public, je n'avais pas de photo de fille. Bon, il y a quand même pas mal de filles dans ce livre, mais elles sont sous-représentées même à cette époque. Et j'ai commencé à faire ma première exposition en 1994. C'est l'exposition qui s'appelait Scène de rock en France, du nom du même livre. Et j'en ai fait pendant des années, mais il m'a fallu 20 ans pour réussir à monter une exposition 100% féminine, que j'ai appelée Allez les filles. Donc 20 ans pour avoir 30 bonnes photos, parce que je ne les avais pas, parce qu'elles étaient sous-représentées. Donc j'ai essayé d'en mettre un maximum dans ce livre. Mais si j'avais pu, j'aurais voulu en mettre plus, mais malheureusement, je n'avais pas.
Tu as encore beaucoup d'expos qui tournent là en ce moment ?
Alors, à chaque fois, je fais un bouquin. Je sors un bouquin tous les 30 ans, donc ouais, ça va aller. Donc là, je sors une expo par derrière. Et généralement, c'est toujours une expo avec des 30-40. Et là, je suis parti dans le gigantisme. Et je vais faire une expo avec des bâches. Je vais imprimer des photos sur des bâches. Sur des formats, c'est 1m20 sur 80, c'est ça ? A0 ?
Oui, c'est ça.
1m20 sur 80, donc c'est très très grand. Et donc, on va pouvoir mettre ça dans les salles de concert. Avec un haut plafond, pas comme ici, quoi. Et donc, ça changera des photos 30-40. Ça, j'en ai fait 4-5. Je veux casser les codes du truc et voilà.
C'est déjà prévu, ça ?
Alors, non, parce qu'elles ne sont pas encore en fabrication.
Vous avez le lieu pour...
Pour l'instant, on a un premier lieu qui va à un concert qui va se passer du côté de Toulouse avec les Ramoneurs du Menhir. Et c'est là où cette expo, dans cette salle, sera pour la première fois exposée. Okay. Mais là, pour l'instant, là, elle n'est toujours pas fabriquée. On s'y met bientôt.
Dès qu'on peut. Plus la taille des tentures, avec 6 tentures, c'est bon, t'as couvert la salle.
Ah bah surtout que je vais en faire 15 à 0 et 15 à 1. Donc ça fait 30, ça fait beaucoup.
Ouais, si tu vas avoir des petits zéniths. Hein.
Oui, oui, bah on ne mettra pas tout. On pourra choisir en fonction de... Voilà. Et puis surtout, quand on fait voyager des expos, ce qui était mon cas dans des grosses malles, alors moi je faisais toujours des expos sans verre, mais finalement ça pèse un poids assez lourd. Donc là, ces bâches, on va pas s'emmerder, on va les rouler, on va les mettre dans un carton, on va les mettre dans la poste, on va réduire les coûts au maximum et ça sera moins cher et plus grand. ce qui est complètement dingue, mais c'est comme ça que ça a marché. Il faut vivre avec son temps pour, à ce niveau-là. Dans les années 90, on faisait très peu d'impression sur bâche. Là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais des photos sur bâche, c'est vulgaire. Non, c'est pas vulgaire, c'est grand, c'est, voilà. Et puis, c'est un peu rendre hommage à cette scène qui était vraiment blacklistée, qui était oubliée. Et là, on va la voir en grand format.
Voilà. Ce qui va être bien, c'est que, vu tes photos, il y aura du grain, il y aura de la matière.
Ah sur oui, les, oui, ça va être du gros grain.
C'est plutôt. D'un point de vue tactile, ça a l'air bien.
Donc, on retrouve des photos de scènes de rock en France dans ce livre. Je n'ai pas fait le pourcentage, mais on en trouve une partie. Mais comme scène de rock en France est arrêtée en 92, puisqu'on a arrêté ça, il sortait un an après. Donc, ensuite, j'ai eu une vie photographique après, de 92 à 98, et il y a beaucoup d'autres photos. Parce qu'un jour, sur Facebook, il y a un gars qui m'a dit oh, « Si c'est pour se fader les mêmes photos, aucun intérêt. » J'ai dit bah, « Non, bah, un très grand intérêt, parce que tes photos toutes pourries, grosses comme ça, là, elles vont être comme ça, bien, super bien imprimées. Et puis surtout, il y en a d'autres après qui sont arrivées. Voilà. »
Mais est-ce qu'on peut dire aussi, c'est ce qu'on disait hier, ensemble avec Paria, et comme tu disais, ça s'est fait avec Paria et avec les archives de la Seconde Guerre parce que c'était complètement raccord. Mmh. Ça, je crois que c'est important aussi de pouvoir se dire que c'est pas un bouquin qui pouvait sortir n'importe où.
Il y a pas tant de. Moi, je crois qu'il n'y a pas tant de photographes ou d'archives photographiques de cette période.
Je connais sur ces groupes, surtout.
Sûr.
Et sur ces groupes, surtout.
Bah oui, oui, oui. Donc on avait déjà fait le livre avec Roland Pogo, Roland Cro. Pour moi, tout de suite derrière, dès qu'on a fini Pogo, moi j'avais en tête François. Voilà. Puis après, on va gratter en fait pour trouver des gens qui ont vraiment une mémoire. Que ce soit du côté de Roland, du côté de François, ce qui est intéressant, c'est quand tu vas chez eux, c'est les montagnes d'archives qu'ils ont conservées. Mmh. Et après, on va tomber sur des photographes amateurs qui auront quelques clichés, mais... Donc là, pouvoir documenter... Bah ouais, c'est... Fallait juste identifier les personnes clés et avec un fond documentaire important pour faire un bel ouvrage.
Merci beaucoup.